Colabrognon de Romain Rolland, septième partie. Ceux que l'on rencontrait maintenant étaient trop bu pour que l'on pût penser encore à discuter. Chaque chose en son lieu. Les arguments de langue, d'abord, et puis les points. On tâchait seulement de les asseoir par terre sans trop les abîmer. Un soulard, c'est sacré. Enfin, l'on se trouva aux portes de l'entrepôt. La nuée des pillards grouillait dans la maison de maître Pierre Poulard, comme des poux sur une toison. Les uns déménageaient des coffres, des ballots, d'autres s'étaient vêtus de défroques volées. Certains joyeux farceurs jetaient, pour rigoler, les vases et les pots des fenêtres du premier. Au milieu de la cour, on roulait des barriques. J'en vis un qui buvait, bouche collée à la bonde, jusqu'à ce qu'il s'écroulât, les quatre fers en l'air, sous le rouge pissa. Le vin formait des mares, que des enfants lapaient. Et, afin d'y mieux voir, ils avaient mis en tas des meubles dans la cour et les faisaient flamber. Au fond des caves, on entendait les maillets qui défonçaient les futailles, les feuillettes. Des hurlements, des cris, des toux qui s'étranglaient. Par-dessous terre, la maison grognait, comme si dans son ventre elle portait un troupeau de gorées. Et déjà, çà et là, sortaient des soupiraux des langues de fumée qui léchaient les barreaux. Nous pénétrâmes dans la cour. Ils ne s'occupaient pas de nous. Chacun a son affaire. Je dis « Roule, Bardet !» Bardet battit sa caisse. Il cria les pouvoirs que la ville m'accordait. Et, donnant de la voix à mon tour, je sommais les pillards de partir. Au roulement de tambour, ils s'étaient rassemblés comme un essaim de mouches quand on frappe un chaudron. Et lorsque notre bruit cessa, tous ils recommencèrent, furieux, à bourdonner, et sur nous se lancèrent en sifflant et huant et nous jetant des pierres. Je tâchais de forcer les portes de la cave, mais des fenêtres du grenier, ils faisaient choir tuiles et poutres. Nous entrâmes pourtant, en refoulant ses gueux. Gagnon eut là deux doigts encore de la main arrachés, et le roi de Calabre eut l'œil gauche crevé. Pour moi, en repoussant la porte qui se ferma, je me trouvai coincé, comme un renard au piège, le pouce entre les gonds. Nom de là ! Je faillis pâmer comme une femme et rendre ce que j'avais dedans mon estomac. Heureusement, j'avisai un baril éventré. C'était de l'eau-de-vie de mare. J'en arrosai mon coffre et j'y baignai mon pouce. Après quoi, je vous jure, Christi, que je n'eus plus envie de tourner la prunelle. Mais je devins furieux, moi aussi. La moutarde m'était montée au nez. Nous luttions à présent sur les marches de l'escalier. Il fallait en finir, car ces diables cornus nous déchargeaient à la face leurs mousquets, et de si près qu'aux barbes de Saulsoie le feu prit. Gurlu, entre ses mains calleuses, l'éteignit. Par chance, ses ivrognes voyaient double, en visant, sans quoi pas un de nous n'en serait sorti vivant. Nous dûmes remonter les marches, et nous battîmes en retraite. Mais, campés à l'entrée, j'aperçus l'incendie, sournois, qui se glissait de l'une et de l'autre aile vers le logis du fond où se trouvait la cave. Je fis fermer l'issue avec une barrière de pierre, de débris, montant jusqu'au nombril. Et par-dessus, braqués, bloquant le défilé, nos épieux et nos gaffes, tel le dos hérissé d'un porc-épic en boule. Et je criai « Brigand ! Ah, vous aimez le feu ! Eh bien donc, mangez-le !» La plupart ne comprirent le danger que trop tard, ivres au fond des caves. Mais quand les grandes flammes firent craquer les murs et broyèrent les poutres entre leurs mandibules, du fond du sol monta un pandémonium. Et un torrent de gueux, dont quelques-uns flambaient, jaillit à la surface, comme du vin mousseux qui fait sauter la bonde. Ils vinrent s'écraser contre notre muraille, et ceux qui les poussèrent formèrent un bouchon qui obstrua l'entrée. Derrière, on entendit rugir au fond du trou le feu et les damnés. Et je vous prie de croire que cette musique-là ne nous faisait pas chaud. Ce n'est pas gai d'ouïr la chair meurtrie qui souffre et brame de douleur. Et si j'avais été simple particulier, brognon de tous les jours, j'aurais dit « Sauvons-les !» Mais lorsqu'on est le chef, vous n'avez plus le droit d'avoir un cœur ni des oreilles. L'œil et l'esprit, voir et vouloir, et faire sans faiblir ce qu'il faut que l'on fasse. Sauver ces bandits-là, c'était perdre la ville, car s'ils étaient sortis, ils se seraient trouvés plus nombreux et plus forts que nous qui les gardions. Et, mûrs pour le gibet, ils ne se fussent pas laissés cueillir à l'arbre. Les guêpes sont dans le nid. Qu'elles y restent ? Et je vis les deux ailes de flammes qui se rejoignaient, et sur le bâtiment du milieu se fermaient, en craquant et faisant voleter autour d'elles leurs plumes de fumée. Or, juste à ce moment, voici que j'aperçois par-dessus les premiers rangs de ceux qui se tassaient, au goulot de l'escalier, collés l'un contre l'autre, et sans pouvoir bouger que des sourcils, des yeux, de la bouche qui hurlait, mon vieux compain Éloi, dit Gambi, ce vaurien, pas méchant, mais soifard. Comment s'est-il fourré, bon Dieu, dans ce guépier? Qui riait et pleurait sans comprendre, hébété. Chenapan, fainéant, il l'a bien mérité. Mais tout de même, on ne peut pas le voir ainsi grillé. Nous avons joué, enfant, et nous avons mangé à l'église Saint-Martin ensemble le corps de Dieu. Nous avons été frères de première communion. J'écarte les épieux. Je saute la barrière, je marche sur les têtes furieuses. Elles mordaient. Et par-dessus cette patte humaine qui fumait, j'arrive à mon Gambi, que j'agrippe au collet. Vain Dieu, oui, mais comment l'arracher de l'étau ? Pensais-je en le prenant. Il faudra le hacher pour avoir un morceau. Par bonheur singulier, je dirais qu'il y a un Dieu pour les ivrognes, si tous n'avaient autant mérité ses faveurs. Mon Gambi se trouvait sur le bord d'une marche, vacillant en arrière, lorsque ceux qui montaient l'avaient sur leurs épaules soulevé de telle sorte qu'il ne touchait plus terre et restait suspendu, pareil à un noyau qu'on presse entre les doigts. En m'aidant des talons pour écarter, à droite, à gauche, les épaules qui lui serraient les côtes, de la gueule de la foule je parvins à sortir sans peine le noyau, proprement expulsé. Il était temps. Le feu, en trombe, remontait, comme par une cheminée, le trou de l'escalier. J'entendis brasiller les corps au fond du four, et, me courbant, marchant à grandes enjambées, sans regarder sur quoi mes souliers s'enfonçaient, je revins, entraînant Gambi par ses cheveux gras. Nous sortîmes du gouffre, dont nous nous écartâmes, laissant la flamme achever l'œuvre. Et cependant, pour refouler notre émotion, à Gambi, nous bourrions les côtes. Cet animal qui, près de crever, avait gardé, sans les lâcher, sur son cœur, deux plats émaillés et une écuelle coloriée, qu'il avait, Dieu sait où, raflée. Et Gambi, dégrisé, pleurant, allait jetant ses écuelles, et s'arrêtant à tous les vents pour pisser comme une fontaine, criant « Je ne veux rien garder de ce que j'ai volé !» Au point du jour, le procureur, maître Guillaume Courtignon, parut, suivi de Robinet, qui le menait tambour battant. 30 gendarmes le flanquaient, et un parti de paysans. Il en vint d'autres, au cours du jour, que le mestrat nous amena, d'autres encore le lendemain, que le bon duc nous envoya. Ils tâtèrent les cendres chaudes, dressèrent constat des dégâts, firent le compte, y ajoutèrent leurs frais de voyage et séjour, et, sans plus, après s'enfuirent, par où ils étaient venus. La morale de tout cela, aide-toi, le roi t'aidera. Chapitre 11. La nique au duc. Fin septembre. L'ordre était revenu, les cendres refroidies, et l'on n'entendait plus parler de maladie. Mais la ville, d'abord, resta comme écrasée. Les bourgeois remâchaient leur peur. Ils tâtaient du pied le terrain. Ils n'étaient pas encore certains d'être dessus et non dessous. Le plus souvent, ils se terraient, ou dans la rue, ils détalaient, rasant les murs, l'oreille basse et la queue entre les jambes. Ah, l'on n'était pas fier. On n'osait presque pas se regarder en face. Et on n'avait pas joie à se regarder soi, soi-même dans la glace. On s'était trop bien vu. On se connaissait trop. Et la nature humaine avait été surprise sans chemise. Ça n'est pas beau. On avait honte et méfiance. Pour mon compte, je n'étais pas très à mon aise. Le massacre et le fumet de la grillade me poursuivaient. Et plus que tout, le souvenir des lâchetés, des cruautés, que j'avais lues sur des visages familiers. Il le savait, il m'en voulait secrètement. Je le comprends. J'étais gênée bien davantage. J'aurais voulu, si j'avais pu, leur dire « Mes amis, pardon, je n'ai rien vu ». Et le lourd soleil de septembre pesait sur la ville accablée. Fièvre et torpeur de fin d'été. Notre raquin était parti, sous bonne escorte, pour Nevers, où le duc et le roi se disputaient l'honneur de le juger. Si bien que, profitant du différend, ils comptaient leur glisser des doigts. Quant à moi, nos messieurs de la Châtellenie avaient eu la bonté de vouloir bien fermer les yeux sur ma conduite. Il paraît que j'avais commis, en sauvant Clamcy, deux ou trois gros délits qui m'eussent pu valoir pour le moins les galères. Mais comme il n'aurait pu, en somme, se produire, si ces messieurs, au lieu de décamper, étaient restés pour nous conduire, ils n'insistèrent, ni moi. Je n'aime point avoir à démêler en justice ma laine. On a beau se sentir innocent, sait-on jamais. Quand on a le doigt pris dans la sacrée machine, adieu le bras. Coupez, coupez, sans hésiter, si vous ne voulez que tout l'animal y passe. Aussi, entre eux et nous, sans nous être rien dit, il était convenu que je n'avais rien fait, et qu'ils n'avaient rien vu, et que ce qui s'était accompli cette nuit sous mon capitanat l'avait été par eux. Mais on a beau vouloir, on ne peut tout d'un coup effacer ce qui s'est passé. On se souvient, et c'est gênant. Je le lisais dans tous les yeux. On avait peur de moi. Et j'avais peur moi-même de moi, de mes exploits, de ce colabrognon inconnu, saugrenu, qu'hier j'avais été. Ô diable, ce César, cet Attila, ce foudre, foudre de vin, je le veux bien, mais de guerre, non, non, ce n'est pas mon affaire. Bref, nous étions penauds, courbaturés, et là, nous avions des remords de cœur et d'estomac. Nous nous remîmes tous au travail, avec rage. Le travail boit les hontes et les peines, comme une éponge. Le travail fait à l'âme peau neuve et sang nouveau. L'ouvrage ne manquait que de ruines partout. Mais qui nous vint le plus au secours fut la terre. Jamais on n'avait vu abondance pareille en fruits et en moissons. Et le bouquet, ce fut pour finir la vendange. On aurait dit vraiment que cette bonne mère voulait nous rendre en vain le sang qu'elle avait bu. Pourquoi pas, après tout? Rien ne se perd, ne doit se perdre. S'il se perdait, où irait-il? L'eau vient du ciel et y retourne. Pourquoi le vin ne ferait-il semblablement le va-et-vient entre la terre et notre sang? C'est même jus. Je suis un cep, ou l'a été, ou le serait. Il me plairait de le penser, et je veux l'être, et je préfère à toute autre immortalité de devenir vigne ou verger, et de sentir ma chair se tendre et se gonfler en de beaux raisins bien ronds, bien pleins, de grappes noires et duvetées, et de faire craquer leur peau à crever au soleil d'été, et, le meilleur, d'être mangé. Toujours est-il que cette année, le jus des vignes déborda et que par tous ses pores, la terre saigna. Voilà-t-il pas que les tonneaux manquèrent, et faute de récipient, on laissa le raisin en cuve, ou bien en cuveau de lessive, sans seulement le pressurer. Bien mieux, il arriva cette chose inouïe qu'un vieux bourgeois d'Andry le père Coulemard, n'en pouvant venir à bout, vendit pour 30 sous le tonneau de raisin, à la condition de le prendre à la vigne. Jugez de notre émoi, à nous qui ne pouvons voir perdre de sang-froid le bon sang du bon Dieu. Plutôt que le jeter, il fallut bien le boire. On se dévoua, on est homme de devoir. Mais ce fut un travail d'Hercule, et plus d'une fois, ce fut Hercule et non Anté qui touche à terre. Enfin, le bon de cette affaire fut qu'on y changea la livrée de nos pensées. Leur front se dérida et leur teint s'éclaircit. Malgré tout, un je ne sais quoi restait encore au fond du verre, comme une lie, un goût de vase. On se tenait toujours à distance les uns des autres, on s'observait. On avait bien repris un peu d'aplomb d'esprit, en titubant, mais on osait se rapprocher de son voisin. On buvait seul, on riait seul. C'est très malsain. Les choses auraient pu durer longtemps ainsi, et l'on ne voyait pas le moyen d'en sortir. Mais le hasard est un malin. Il sait trouver le vrai moyen, le seul qui cimente les hommes. C'est à savoir de les unir contre quelqu'un. L'amour aussi rapproche. Mais ce qui, de tous, fait un seul homme, c'est l'ennemi. Et l'ennemi, c'est notre maître. Or, il advint en cet automne que le duc Charles prétendit nous empêcher de danser en rond. C'est un peu fort, crebleu. Du coup, ne fut podagre ou boiteux ou sans pattes qui ne se sentit monter les fourmis au mollet. Comme toujours, l'occasion du débat fut le pré-le-comte. C'est la bouteille à l'encre, on n'en sortira pas. Ce beau pré, si au pied du mont du Croque-Pinçon, aux portes de la ville, et sur le bord duquel semble négligemment posé comme une serpe le beuvron serpentant, est depuis 300 ans disputé, tiraillé entre la grande gueule de monsieur de Nevers et la nôtre qui est moins grande, mais qui sait tenir ce qu'elle tient. Nulle animosité, d'une part ni de l'autre. On rit, on est poli, on se dit « Mon ami, mes amis, mon seigneur ». Seulement, on n'en fait qu'à sa tête, et aucun ne consent à céder un pouce du terrain. Pour dire vrai, dans nos procès, nous n'avons eu jamais raison. Tribunaux, cours de bailliage, tables de marbre du palais ont rendu arrêt sur arrêt, établissement que notre pré n'était pas nôtre. Comme on sait, justice est l'art, pour de l'argent, d'appeler noir ce qu'on voit blanc. Ça ne nous troublait pas beaucoup. Juger n'est rien, avoir est tout. Que la vache soit noire ou blanche, garde ta vache, mon bonhomme. Nous la gardions et nous restions dans notre pré. C'est si commode. Pensez donc, c'est le seul pré qui ne soit pas à l'un de nous dans Clamcy. Étant au duc, il est à tous. Nous n'avons donc aucun scrupule à le gâter. Aussi, Dieu sait si l'on s'en donne. Tout ce qu'on ne pourrait faire chez soi, on le fait là. On y travaille, on y nettoie, on y carde les matelas, on y bat les vieux tapis, on y jette ses débarras, on y joue, on s'y promène, on y fait pâturer sa chèvre, on y danse au son des vielles, on s'y exerce au maniement de l'arquebuse et du tambour. Et la nuit, on y fait l'amour dans l'herbe fleurie de papier, le long du chuchotant beuvron, que rien n'étonne, il en vit d'autres. Tant que vécut le duc Louis, tout alla bien, car il feignait de ne rien voir. C'était un homme qui savait, pour mieux tenir son attelage sous le harnais, laisser du jeu à ses sujets. Que lui faisait que nous eussions l'illusion d'être libres et de jouer les fortes têtes, si dans le fait il était maître? Mais son fils est un vaniteux, qui aime mieux paraître qu'être. Cela se conçoit, il n'est rien. Et qui monte sur ses ergots dès que l'on fait cocorico. Pourtant, il faut qu'un Français chante et qu'il se moque de ses maîtres. S'il ne se moque, il se révolte. Il n'a de goût à obéir à qui veut être pris toujours au sérieux. Nous n'aimons bien que ceux dont nous pouvons rire, car le rire nous fait tous égaux. Mais cet oison s'avisa donc de nous faire inhibition d'aller jouer, danser, fouler, gâter l'herbe en le pré le comte. Il prenait bien son temps. Après tous nos malheurs, quand il eût dû plutôt nous dégrever d'un pot. Ah! Mais nous lui montrâmes que les clames s'y soient ne sont pas de ce bois dont on fait des fagots, mais de souches bien dures, de chênes, où la cognée a grand-peine à entrer. Et, quand elle est entrée, plus grand-peine à sortir. Il ne fut pas besoin de se donner le mot. Ce fut un beau concert. Nous prendre notre pré, reprendre le cadeau qu'on nous avait donné, ou que nous nous étions arrogés, c'est le même. Un bien qu'on a volé et 300 ans gardé devient propriété 3 fois sainte et sacrée. Un bien d'autant plus cher qu'il n'était pas à nous et que nous l'avions fait nôtre, pouce à pouce, jour par jour, et par lente conquête et par ténacité. Le seul bien qui ne nous eût rien coûté que la peine de le prendre. C'était à dégoûter de prendre jamais rien. À quoi bon vivre, alors? Si nous avions cédé, mais nos morts en seraient sortis de leur tombeau. L'honneur de la cité nous trouva tous d'accord. Le soir même du jour où le tambour de ville, sur un mode lugubre, il avait l'air d'accompagner un condamné aux fourches de Sambert, nous cria le fatal décret, tous les hommes d'autorité, les chefs des confréries et des corporations et les porte-bâtons se rassemblèrent sous les piliers du marché. J'étais là. Je représentais, comme il est juste, ma patronne, Madame Joachim, la mère grand Sainte-Anne. Sur la façon d'agir, les avis différaient. Mais qu'il fallut agir, chacun en convenait. Gagnon pour Saint-Éloi et pour Saint-Nicolas, Calabre, étaient partisans de la manière forte. Ils voulaient que sur l'heure, on mit le feu aux portes, qu'on brisa les barrières et la tête des sergents, et qu'on rasa le pré, rasibus, jusqu'au cuir. Mais pour Saint-Honoré, boulanger Florimond, et Maclou, jardinier, pour Saint-Fiacre, homme doux et saint doux, étaient bénis, voulaient sagement consentin à la guerre de parchemin, vœux platoniques et supplique à la duchesse, accompagné sans doute des produits non gratuits du four et du jardin. Heureusement, nous étions trois. Moi, Jean Bobin pour Saint-Crépin, Edmond Poifou pour Saint-Vincent, qui n'étions pas plus disposés pour faire la leçon au duc à lui baiser qu'à lui botter le cul. In mediostat la vertu. Un bon gaulois sait la façon, quand il veut se moquer des gens, de le faire tranquillement, à leur barbe, sans qu'il y touche, et surtout sans qu'il lui en coûte. Ce n'est pas tout de se venger. Il faut encore bien s'amuser. Or, voici ce que nous trouvâmes. Mais dois-je d'abord raconter la bonne farce que j'inventais devant que la pièce soit jouée? Non, non, ce serait l'éventer. Il suffit de noter, pour notre honneur à tous, que notre grand secret, 14 jours durant, par toute la cité fut connu et gardé. Et si l'idée première est de moi, j'en suis fier. Chacun y ajouta quelque embellissement, l'un refaisant l'oreille, l'autre ajoutant ici une boucle, un ruban, en sorte que l'enfant se trouva bien pourvu. Il ne manquait de père. Les échevins, le maire, en secret et discret, s'informaient chaque jour des progrès du marmot. Et maître de Lavaux, nuitamment, se cachant le nez sous son manteau, venait s'entretenir avec nous de l'affaire, nous montrant la façon de violer la loi tout en la respectant, et triomphalement nous sortait de ses poches quelques laborieuses inscriptions en latin qui célébraient le duc et notre obéissance, et pouvaient dire aussi tout juste le contraire. Enfin, le grand jour vint. Sur la place Saint-Martin, nous attendions les échevins, maîtres et compagnons, bien rasés, pomponnés, sagement alignés autour de nos bâtons. Sur le coup de 10 heures, les cloches de la tour se mirent à sonner. aussitôt. Aux deux coins de la place, les deux portes de la maison de ville et de l'église Saint-Martin, toutes grandes, s'ouvrirent. Et sur les deux perrons, on eût dit des bonhommes d'horloge qui défilent. Sortirent, d'un côté, les surplis blancs des curés, de l'autre, jaunes et verts comme coin, les échevins. En se voyant, ils échangèrent par-dessus nous de grands saluts. Puis, sur la place, ils descendirent, précédés les premiers des bedeaux enluminés, robes rouges et rouge-nez, les autres des huissiers de la ville, bridés, faisant tinter leurs chaînes au cou et rebondir leurs longues lattes sur le pavé. Nous, rangés tout autour de la place et le long des maisons, nous dessinions un rond. Et les autorités, juste au milieu placées, figuraient le nombril. Tout le monde était là. Point de retardataire. Les chicanous, les basochiens et le notaire, sous la bannière de Saint-Yves, l'homme d'affaires de notre père et les apothicaires, mires et médecins, fins connaisseurs d'urine, chacun hume sa vigne, et donneur de clistère, sub in vocatione de Saint-Côme, qui rafraîchit les entrailles du paradis, formaient autour du maire et du vieux archiprêtre une garde sacrée, la plume et la seringue. De messieurs les bourgeois, un seul manquait, je crois. C'était le procureur, représentant du dic. Mais mari de la fille de Mestral Échevin et bon clame s'y soit, ayant chez nous son bien, qui, sagement, instruit de ce qu'on allait faire et ne craignant rien tant que de prendre parti, avait trouvé moyen de s'absenter la veille. On resta quelque temps à bouilloter sur place. C'était comme une cuve où fermente le mouf. Quel joyeux brouhaha! Chacun parlait, riait, les violons s'accordaient et les chiens aboyaient. On attendait. Qui donc? Patience! La surprise! Et la voici qui vient. Avant qu'on ne l'ait vue, une traînée de voix court devant et l'annonce. Et tous les coups se tournent, comme des girouettes sous le vent, d'un seul coup. Sur la place, débouche de la rue du marché, portée sur les épaules de 8 solides gars, et houlant par-dessus la foule, une construction de bois en pyramide, 3 tables inégales, posées l'une sur l'autre, les pieds enrubannés, galonnés, culottés d'étoffes de soie claire. Et au sommet, dessous, un dais piqué d'aigrette et d'où tombait un flot de rubans de couleur. Une statue voilée. Nul ne songea à s'étonner, car tout était dans le secret. Chacun lui tira son bonnet bien poliment. Mais dans la coiffe, nous, vieux malins, nous rigolions. Aussitôt que sur la place la machine fut avancée, juste au milieu, entre le maire et le curé, les corporations, musique en tête, défilèrent, faisant d'abord autour de l'axe immobile un tour entier, puis s'engouffrèrent dans la ruelle, qui, longeant le portail de l'église, descend la porte de Beuvron. Premier, comme se doit, marchait Saint-Nicolas. Roi de Calabre, vêtu d'une chape d'église, avec un soleil d'or brodé dessus son dos, ainsi qu'un scarabée, tenait de ses bras noirs et noueux le bâton du sein de la rivière, en forme de bateau recourbé des deux bouts, sur lequel Nicolas bénit avec sa crosse les 3 petits enfants assis dans le baquet. 4 vieux mariniers l'escortaient, emportant 4 cierges jaunis, épais comme des cuisses et durs comme des triques, dont ils étaient tout prêts à user, au besoin. Et Calabre, fronçant les sourcils et levant vers le sein son œil unique, marchait en écartant les jambes et bombant ce qu'il avait de ventre. Suivaient les compagnons du pot d'étain, les fils de Saint-Éloi, couteliers, serruriers, charrons et maréchaux, que précédait Gagnon à la main mutilée, portant haut dans sa pince à 2 doigts une croix et, sculpté sur le manche, en faisceau, l'enclume et le marteau. Et les hautbois sonnaient, la culotte à l'envers du bon roi Dagobert. Puis venaient vignerons, tonneliers, chantant l'hymne du vin et de son saint, Vincent, qui, perché sur le bout du bâton, étreignait un broc dans une main et dans l'autre un raisin. Menuisier, charpentier, Saint-Joseph et Sainte-Anne, gendre et belle-maman, bon soifard, nous suivions le patron des bouchons, en claquant de la langue et louchant vers le piot. Et les Saint-Honoré, gras et blancs de farine, comme un trophée romain, dressaient sur un harpon un pain rond surmonté d'une couronne blonde. Après les blancs, les noirs, les niafs empoissés, qui dansaient en faisant claquer leurs tire-pieds autour de Saint Crépin. Enfin, pour le bouquet, Saint Fiacre tout fleuri. Jardiniers, jardinières, portaient sur un brancard œillets et giroflées, roses enguirlandées autour de leurs chapeaux, des pioches, des râteaux. Leurs bannières de soie rouge représentant Fiacre, les mollets nus et troussés jusqu'au cul, son gros orteil crispé sur la bêche enfoncée, claquait au vent d'automne. La machine voilée s'ébranla à la suite. Des fillettes en blanc, qui trottinaient devant, miaulaient des cantiques. Le maire et les trois échevins, des deux côtés, marchaient en tenant les gros glands des rubans qui tombaient du haut du dais. Autour, Saint-Yves et Saint-Côme faisaient la haie. Derrière, le Suisse, comme un coq, dressé sur ses ergots, avançait son jabot. Et le curé, flanqué de ses abbés, l'un long ainsi qu'un jour sans pain, l'autre épais, aplati comme un pain sans levain, chantait tous les 10 pas, de sa basse profonde, un bout de litanie. Mais sans se fatiguer, laissant chanter les autres, remuant les babines et les mains sur son ventre, il dormait en marchant. Le gros du peuple, enfin, roulait d'un seul morceau, d'une pâte compacte et molle, comme un flot gras. Et nous étions l'écluse. Nous sortîmes de la ville. Droit au pré, nous nous rendîmes. Le vent faisait voler les feuilles des platanes. Sur la route, leur escadron galopait au soleil, et la rivière lente charriait leurs côtes d'or. À la barrière, les 3 sergents de la police et le nouveau capitaine du château firent semblant de nous défendre de passer. Mais à part le capitaine, frais et moulu, nouveau venu dans notre ville, qui prenait tout pour bon argent, la pauvre bête avait couru à perdre haleine et roulait des yeux furieux. Comme larrons en foire, on était tous d'accord. On n'en jura pas moins, sacra, on se gourma. C'était dans notre rôle, on joua en conscience. Mais on avait grand mal à rester sérieux. Il n'aurait pas fallu pourtant faire durer la farce trop longtemps, car Calabre et les siens commençaient à jouer trop bien. Saint-Nicolas, au bout de son bâton, devenait menaçant, et les cierges branlaient dans les poings, attirés par les dos des sergents. Alors le maire s'avança, enleva son bonnet de sa tête et cria « Chapeau bas !» Au même instant, tomba le rideau qui couvrait la statue sous le dais, et les huissiers de ville crièrent « Place au duc !» Le vacarme cessa soudain. Saint-Nicolas, Saint-Éloi, Saint-Vincent, Saint-Joseph et Sainte-Anne, Saint-Honoré, Saint-Fiacre, des deux côtés rangés, présentèrent les armes. Les sergents de police et le gros capitaine, éperdus, tête nue, cédèrent le passage. Et l'on vit s'avancer, en se dodelinant au-dessus des porteurs, couronnés de lauriers, la toque sur l'oreille et l'épée sur le ventre, le duc en effigie. L'inscription du moine de maître de Lavaux le proclamait « Urbi et Orbi ». Mais pour dire le vrai et le bon de la chose, c'est que, n'ayant le temps ni les moyens de faire un portrait ressemblant, nous avions bonnement pris dans les greniers de la maison de ville une vieille statue. On n'a jamais bien su ni de qui ni par qui. Sur le socle, on lisait seulement le nom de Mironger de Balthazar, et depuis on la nomma Balduc. Mais qu'importe, c'est la foi qui sauve. Les portraits du bon saint Éloi, de saint Nicolas ou de Jésus sont-ils plus vrais? Pourvu qu'on croit, on voit partout celui qu'on veut. Il faut un Dieu. Il me suffit, s'il me plaît, d'un morceau de bois pour le loger, lui et ma foi. Il fallait un duc ce jour-là. On le trouva. Devant les bannières inclinées, le duc passa. Puisque le pré était à lui, il y entra. Et nous, pour l'honorer, nous lui fîmes escorte, tous étendards au vent, tambours battants, trompettes et musettes, et le Saint-Sacrement. Qui l'eût trouvé mauvais? Seul un mauvais sujet du duc, un esprit chagrin. Mi figue, mi raisin, fallut bien que le capitaine le trouvât bon. Il n'avait que le choix entre arrêter le duc ou se joindre à la suite. Il emboîta le pas. Tout allait pour le mieux lorsqu'on fut sur le point d'échouer, près d'arriver au port. À l'entrée, saint Éloi heurta saint Nicolas et saint Joseph se prit de bec avec sa belle-mère. Chacun voulait passer le premier, sans souci de l'âge, des égards de la galanterie. Et comme ce jour-là, on était tous venus, prêts au combat et d'humeur guerrière, les poings nous démangeaient à tous. Heureusement, moi qui suis à la fois de saint Nicolas par mon nom et de Joseph et d'Anne par ma profession, sans parler de mon frère de lait, saint Vincent, qui tête le raisin, moi qui suis pour tous les saints, pourvu qu'ils soient pour moi, j'avisai un chariot de vendange qui passait sur la route et Gambi, mon compain, titubant à côté. Et je criai « Amis, il naît le premier parmi nous, embrassons-nous. Voici celui qui nous met tous d'accord, notre maître, le seul, après le duc, bien entendu. Il est venu, qu'on le salue, gloire à Bacchus. » Et prenant par les fesses mon Gambi, je le hisse sur le char où il glisse et culbute dans un fût de raisin écrasé. Puis j'empoigne les brides et dans le pré le comte, nous entrons les premiers. Bacchus, trempant sa base dans le jus du tonneau, la tête couronnée de pampres, gigotait des jambes et riait. Bras dessous, tous les saints et les saintes, derrière le derrière de Bacchus triomphant, le suivaient en dansant. Il faisait bon sur l'herbe. On y balla, mangea, joua, campa, tout le jour, autour de ce bon duc. Et le lendemain matin, le pré était pareil à un parc à cochons. Plus un fil de gazon. Nos semelles étaient inscrites dans le sol tendre et témoignaient du zèle avec lequel la ville avait fêté le seigneur duc. Je pense qu'il en fut bien content. Et parbleu, nous le fûmes aussi. À vrai dire, le lendemain, le procureur crut opportun, quand il revint, de s'indigner, de protester, de menacer. Il n'en fit rien. Il s'en garda. Oui, bien, il ouvrit une enquête. Mais il eut soin de ne la fermer point. Il est plus sain de laisser les portes ouvertes. Nul ne tenait à rien trouver. C'est ainsi que nous montrâmes que les clames si soient peuvent tout à la fois être sujets soumis de leur duc et du roi et n'en faire jamais qu'à leur tête. Elle est de bois. Et cette preuve faite ramena la gaieté dans la ville éprouvée. On se sentait revivre. On s'abordait en clignant de l'œil, on s'embrassait en riant, on pensait « Nous n'avons pas vidé notre sac à malice, ils ne nous ont pas pris le meilleur, tout va bien. » Et le souvenir de nos malheurs s'envola. Chapitre 12. La maison des autres. Octobre. J'ai dû prendre parti enfin pour le logement. Tant que j'ai pu, j'ai tardé. On recule pour mieux sauter. Depuis que je n'ai plus pour foyer que des cendres, j'ai campé un jour-ci, un jour-là, chez un ami, chez l'autre. Les gens ne manquaient point qui me gardaient chez eux, une nuit ou deux, en attendant. Aussi longtemps que le souvenir des périls de tous pesait sur tous, on formait un troupeau, et chacun se sentait chez les autres, chez soi. Mais cela ne pouvait durer. Le danger s'éloignait. Chacun rentrait son corps dans sa coquille. Or ceux qui n'avaient plus de corps, et moi qui n'avais plus de coquille. Je ne pouvais pourtant m'installer à l'auberge. J'ai deux fils et une fille qui sont bourgeois de Clamecy, ils ne me l'eussent pas permis. Non pas que les deux garçons en eussent beaucoup pâti dans leur affection, mais le qu'en dira-t-on? Ils n'étaient pas pressés cependant de m'avoir, et je ne me hâtais point. Mon franc-parler jure trop avec leur bigoterie. Lequel se dévouerait des deux? Les pauvres gars, ils étaient tout autant embarrassés que moi. Heureusement pour eux, Martine, la brave fille, m'aime vraiment, je crois. Elle me réclamait à tout prix. Oui, mais il y a mon gendre. Il n'a pas de raison, je le comprends, cet homme, pour me vouloir chez lui. Alors, ils étaient tous à ses pieds, à mes pieds, avec des yeux fâchés. Et moi, je les fuyais. Il me semblait qu'on mettait mon vieux corps aux enchères. Je m'étais pour l'instant gîté dans mon couta sur la pente de Beaumont. C'était là qu'en juillet, j'avais, vieux polisson, couché avec la peste. Car le bon de l'histoire était que ces hébétés qui par salubrité brûlèrent ma maison saine ont laissé la bicoque où la mort a passé. Moi qui ne la crains plus, la madame s'en est, je fus bien aise de retrouver la cabane au sol battu, où gisaient les flacons de l'agape funèbre. À part les francs, je savais que je ne pourrais jamais hiverner dans ce trou. Porte disjointe, vite brisée, et un toit d'où s'égouttait l'eau des nuages, proprement, comme d'une clé à fromage. Mais il ne pleuvait pas aujourd'hui, et demain, il serait assez temps de penser à demain. Je n'aime pas me tourmenter d'avenir incertain. Et puis, quand je ne peux, à mon contentement, résoudre un embarras, mon remède est de le remettre à la semaine prochaine. « À quoi sert ? » me dit-on. « Il faudra bien toujours avaler la pilule. »« Voir, » que je réponds. « Qui sait si, dans 8 jours, le monde sera là ? Serais-je assez vexé, la pilule avalée, si les trompettes de Dieu se mettaient à sonner de m'être trop pressé ? Mon ami, ne remets d'une heure le bonheur jamais. Le bonheur se boit frais. Mais l'ennui peut attendre. Si la bouteille s'évente, elle n'en vaudra que mieux. Ah donc, j'attendis. Ou mieux, je fis attendre le parti importun qu'il faudrait un jour prendre. Et pour que rien ne vînt, d'ici là, me troubler, je verrouillai la porte et me barricadai. Mes méditations ne me pesaient pas lourd. Je piochais mon jardin, ratissais les allées, recouvrais les semis sous les feuilles tombées, battais les artichauts et pansais les bobos des vieux arbres blessés. Bref, faisais la toilette à Madame la Terre, qui s'en va s'endormir sous les dredons d'hiver. Après, pour me payer, j'allais tâter les côtes à un petit beurret, roux ou jaune marbré, oublié au poirier. Dieu, qu'il fait bon le laisser fondre tout le long, amont, aval, tout le long de son gosier, bouche pleine, le jus parfumé. Je ne me risquais en ville que pour renouveler mes munitions. J'entends non seulement le boire et le manger, mais les nouvelles. J'évitais de rencontrer ma postérité. Je leur avais fait croire que j'étais en voyage. Je ne jurerais pas qu'ils le crussent. Mais, en fils respectueux, il ne voulait me démentir. Nous avions l'air ainsi de jouer à cache-cache, comme ces galopins qui se crient « Louis es-tu ?» Et quelque temps encore, nous aurions pu, pour prolonger le jeu, répondre « Louis n'y est pas !» Nous comptions sans Martine. Quand une femme joue, elle triche toujours. Martine se méfiait. Martine me connaît. Martine eut bientôt fait de dépister mes ruses. Elle ne plaisante pas avec ce qu'on se doit, entre père et enfant, frère, sœur, etc. Un soir, que je sortais du Kouta, je la vis qui montait le chemin et venait. Je rentrais et fermais. Puis, je ne bougeais plus, tapis au pied du mur. Elle arriva, frappa, et là, cogna la porte. Je ne remuais non plus qu'une feuille morte. Je retenais mon souffle. Justement, j'étais pris d'une envie de tousser. Elle, sans se lasser, criait « Veux-tu ouvrir? Je sais que tu es là !» Et du poing, du sabot, sur lui, elle ruait. Je pensais « Quelle gaillarde! Si la porte cédait, je n'emmènerais pas large. » Et j'étais sur le point d'ouvrir pour l'embrasser. Ce n'était pas du jeu. Et moi, lorsque je joue, je veux toujours gagner. Je m'obstinais. Martine encore cria, puis enfin renonça. J'entendis s'éloigner son pas, qui hésitait. Je quittai ma cachette et je me mis à rire, mais à rire et tousser, je m'étranglai de rire. J'avais ri tout mon sou, je m'essuyai les yeux, lorsque derrière moi j'entends du haut du mur une voix qui disait « Est-ce que tu n'as pas honte ?» J'en faillis choir. Sursautant, je tournai la tête et je vis, agrippée au mur, Martine qui me regardait. Avec des yeux sévères, elle dit « Vieux farceur, je te tiens !» Ébahie, je réponds « Je suis pris » Là-dessus, nous partîmes tous deux d'un éclat de rire. Penaud, j'allais ouvrir. Elle entra, tel César, se planta devant moi et me dit « Demande pardon !» Je dis « Mea culpa !» Mais c'est comme à confesse, on se dit que demain l'on recommencera. Elle me tenait toujours la barbiche, la barbette, et la tirait et grommelait « Honte ! Honte ! Un barbon ! Cette queue blanche au menton, et dans le front, pas plus de raison qu'un enfanson !» Deux fois, trois fois, elle la tira comme une cloche, à gauche, à droite, en haut, en bas, puis sur les joues elle me donna une tapette et m'embrassa. « Pourquoi ne venais-tu pas, mauvais ? » dit-elle. « Mauvais, tu sais bien que je t'attendais. » « Ma petite fille, » je dis, « je m'en vas t'expliquer. Tu m'expliqueras chez moi. Allons, oust, partons. » Ah, oh, mais je ne suis pas prêt. Laisse-moi faire mes paquets. Tes paquets, jour de Dieu, je vais t'aider à les faire. Elle me jeta sur le dos ma vieille cape, m'enfonça sur la tête mon chapeau de feutre usé, me fit cela, me secoua et me dit « Et voilà, maintenant, en avant !» Un instant, que je dis. Je m'assis sur une marche. « Quoi ? » fit-elle indignée. « Tu vas me résister ? Tu ne veux pas venir chez moi ?» « Je ne résiste pas, dis-je. Faut bien que je vienne chez toi, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. »« Eh bien, tu es aimable, » dit-elle. « Voilà ton affection. » « Je t'aime bien, ma bonne fille, » je réponds. « Je t'aime bien, mais je t'aimerais mieux chez moi que de me voir chez un autre. »« Je suis donc un autre, » dit-elle. « Tu en es la moitié. »« Ah, que nenni ! » fit-elle. « Ni la moitié, ni le quart. Je suis moi, tout entier, moi, de la tête aux pieds. Je suis sa femme, possible, mais il est mon mari, et je veux ce qu'il veut, s'il veut ce que je veux. » Tu peux être tranquille. Il sera enchanté que tu loges chez moi. Ah, il ferait beau voir qu'il ne le fût pas. » Je dis. Je le crois bien. Tel monsieur de Nevers, quand il met garnison chez nous. J'en ai beaucoup logé, mais je n'ai pas l'habitude d'être de ceux qu'on loge. Tu l'apprendras, dit-elle. Plus de réplique, marchons. Soit, mais à une condition. Des conditions déjà? Tu es vite habitué. C'est qu'on me logera suivant ma volonté. Tu vas faire le tyran, je vois. Eh bien, soit. C'est juré? C'est juré. Et puis, en voilà assez bavard. Veux-tu marcher? Elle m'empoigna le bras, non de là. Quelle pince! Il fallut bien filer. Arrivée au logis, elle me fit voir la chambre qu'elle me destinait. Dans l'arrière-boutique, bien chaude et sous son aile. La bonne fille me traitait comme l'enfant à la mamelle, Le lit était tout prêt, fin duvet et drap frais. Et sur la table, dans un verre, un bouquet de bruyère. Je riais dans mon cœur, amusé et touché. Pour la remercier, je me dis « Brave Martine, je vais la faire enrager. » Alors je déclarai tout net « Cela ne me convient pas. » Elle me montra, vexée, les autres chambres au rez-de-chaussée. Je ne voulus d'aucune, et j'arrêtai mon choix sur un petit réduit mansardé sous le toit. Elle poussa les hauts cris, mais je lui dis « Ma belle, c'est comme tu voudras, à prendre ou à laisser. Ou je m'installe ici, ou je retourne au Kuta. » Fallut bien qu'elle cédât. Mais tous les jours depuis, et à toute heure du jour, elle revenait à la charge. « Tu ne peux pas rester là, tu serais mieux en bas. Dis-moi ce qui te déplaît. Enfin, tête de bois, pourquoi ne veux-tu pas ?» Je répondais, narquois, « Parce que je ne veux pas. » « Tu me feras damner !» criait-elle, indignée. « Mais je sais bien pourquoi. Orgueilleux, orgueilleux, qui ne veut rien devoir à ses enfants. À moi, à moi, je te battrai !»« Ce serait la façon, dis-je, de me forcer à encaisser de toi au moins des horions. « Va, tu n'as pas de cœur, » dit-elle. « Ma petite fille !»« Oui, fais le patelin, bats les pattes, vilain !» « Ma grande, ma doucette, mamie, ma toute belle. Vas-tu me faire la cour à présent, gueule de miel? Flatteur, hableur, menteur, quand auras-tu fini, dis, de me rire au nez avec ta longue bouche tortillée? Regarde-moi, tu ris, toi aussi. Non, tu ris. Non, non, non. Je le vois, là. » Et j'appuyai mon doigt sur sa joue qui s'enflait de tire et qui creva. « C'est trop bête, » dit-elle. « Je t'en veux, je te hais, et je n'ai même pas le droit d'être fâchée. Il faut que ce vieux singe me fasse, malgré moi, rire de ses grimaces. Mais va, je te déteste. Un méchant gueux ruiné qui fait son artaban, le fier avec ses enfants. Tu n'en as pas le droit. » « C'est le seul qui me reste. » Elle me dit encore des paroles aiguisées, et je lui en servis d'aussi bien affilée. Nous avons tous les deux langue de rémouleur. Nous repassons les mots sur la meule au couteau. Par bonheur, au moment où l'on n'est plus méchant, on se dit, elle et moi, une bonne drôlerie, et l'on rit. Il n'est pas moyen de s'empêcher. Et tout est à recommencer. Lorsqu'elle eut bien secoué le battant de sa langue, depuis un long moment, moi, je n'écoutais plus. Je lui dis « À présent, sonnons le couvre-feu, nous reprendrons demain. » Elle me dit « Bonsoir, tu ne veux donc pas ?» Bouche close. « Orgueilleux, orgueilleux !» redit-elle. « Écoute, ma mignonne, je suis un orgueilleux, un artaban, un paon, tout ce que tu voudras. Mais dis-moi franchement, « si tu étais à ma place, que ferais-tu ?» Elle réfléchit et dit « J'en ferai autant. »« Tu vois bien. Là-dessus, baise-moi. Bonne nuit. » Elle m'embrassa en rechignant, elle s'en alla en marmonnant. « C'est-il pas malheureux d'avoir reçu du ciel deux caboches pareilles ?»« C'est cela, dis-je. Fais-lui la leçon, ma belle, à lui, et non à moi. » « Je la ferai, dit-elle, mais tu n'en seras pas quitte. » Et je n'en fus pas quitte. Le lendemain matin, elle recommença. Et je ne sais pas quelle fut la part du ciel, mais la mienne était belle. Je fus comme un coq en pâte les premiers jours. Chacun me choyait, gâtait. Le florimond lui-même était aux petits soins et me marquait plus d'égards qu'il ne m'en fallait. Martine le guettait. Ombrageuse pour moi plus que je ne l'étais. Glody me régalait de son petit caquet. J'avais le meilleur siège. À table, on me servait le premier. On m'écoutait quand je voulais parler. J'étais très bien. Très bien. Ouf, je n'en pouvais plus. J'étais mal à mon aise. Je ne tenais plus en place. Je descendais, je remontais, redescendais 20 fois par heure l'escalier de mon grenier. Chacun en était assommé. Martine, qui n'est point patiente, entrait, sautait, muette et crispée, en entendant mon pas craquer. Si c'eût été, du moins l'été, j'eusse battu la campagne. Je la battais, mais au logis. L'automne était de glace, les grands brouillards couvraient les prés, et la pluie tombait, tombait, le jour, la nuit. J'étais cloué sur place, et cette place n'était pas la mienne, jour de Dieu. Ce pauvre Florimond avait un goût niais, avec prétention. Martine ne s'en souciait, et tout dans la maison, les meubles, les objets, me choquaient. Je souffrais. J'eusse voulu changer tout, de forme ou de place. Les mains me démangeaient. Mais le propriétaire veillait. Si je touchais du bout du doigt un de ses biens, c'était toute une affaire. Il y avait surtout dans la salle à manger une aiguière ornée de 2 pigeons se bécotant et d'une demoiselle qui faisait la sucrée avec son fade amant. J'en avais la nausée. Je priais Florimond au moins de l'enlever de la table quand je mangeais. Les morceaux s'arrêtaient dans mon goulet, je m'étranglais. Mais l'animal, c'était son droit, s'y refusait. Il était fier de son nougat. Le plus grand art était pour lui une pièce montée, et mes grimaces réjouissaient la maisonnée. Que faire? Rire de moi. J'étais un sot, c'est sûr. Mais la nuit, je me retournais dans le lit comme une côtelette, tandis que sur le grill, sur mon toit, veux-je dire, sans arrêt, la pluie grésillait. Et je n'osais me promener dans mon grenier que mes gros pas faisaient trembler. Enfin, une fois que j'étais assis, les jambes nues et méditant dessus mon lit, je me dis « Mon colabrognon, je ne sais ni quand ni comment, mais je referai ma maison. » À partir de ce moment, je fus plus gai. Je conspirais. Je n'avais garde d'en parler à mes enfants. Ils m'eussent dit qu'en fait d'habitation, je n'étais bon que pour les petites maisons. Mais où trouver l'argent? Depuis Orphée et Amphrion, les pierres ne viennent plus danser en rond. Et se faisant la courte échelle, bâtir les murs et les maisons, sinon au champ des escarcelles. La mienne avait perdu sa voix, qui jamais ne fut belle. Je recourus sans hésiter à celle de l'ami Paillard. Le brave homme, à dire vrai, ne me l'avait point offerte. Mais comme bonnement j'ai plaisir à demander service à un ami, je crois qu'il en aura autant à le donner. Je profitai d'une éclaircie pour m'en aller à Dornecy. Le ciel était bas et gris. Le vent humide et là passait comme un grand oiseau mouillé. La terre vous collait aux pieds. Et sur les champs tombaient, planant, les feuilles jaunes des noyers. Au premier mot que je lui dis, Paillard, inquiet, m'interrompit, en geignant sur le peu d'affaires, l'absence des recouvrements, manque d'argent, mauvais clients, tant et si bien que je lui dis, « Mais, Paillard, veux-tu que je te prête un liard ?» J'étais froissé, il l'était plus, et nous restâmes à bouder, en nous parlant d'un air glacé, de ci, de ça, moi furieux et lui honteux. Il regrettait sa ladrerie. Le pauvre vieux n'est pas mauvais garçon. Il m'aime, je le sais bien, parbleu. Il n'eût pas demandé mieux que de me donner son argent s'il ne lui en avait rien coûté. Et même en insistant, j'eusse obtenu de lui ce que j'aurais voulu. Mais ce n'est pas sa faute s'il porte dans sa peau 3 siècles de fesses Mathieu. On peut être bourgeois et généreux, sans doute. Cela se voit parfois, ou bien c'est vu, dit-on. Mais pour tout bon bourgeois, le premier mouvement, quand on touche à sa bourse, est de répondre non. L'ami Paillard eût donné gros en ce moment pour dire oui. Mais pour cela, il eût fallu que je lui fisse de nouveau des avances. Je n'avais garde. J'ai mon orgueil. Quand je demande à un ami, je crois lui faire un grand plaisir. Et s'il hésite, je n'en veux plus. Tant pis pour lui. Donc nous parlâmes d'autre chose, d'un ton bourru et le cœur gros. Je refusais de déjeuner. Je le navrais. Je me levais. La tête basse, jusqu'au seuil, il me suivit. Mais au moment d'ouvrir la porte, je n'y tins plus. Je lui passai mon bras autour de son vieux cou, et sans parler, je l'embrassai. Il me le rendit bien. Timidement, il dit « Cola, Cola, veux-tu ?» Je fis « N'en parlons plus. » Je suis têtu. « Cola, » reprit-il l'air penaud, « déjeune au moins. » « Pour ça, dis-je, c'est une autre affaire, mon paillard, déjeunons. » Nous mangeâmes comme quatre, mais je restai de bronze et je ne revins pas sur ma décision. Je sais bien que j'en étais le premier puni, mais il l'était aussi.